Chapitre 2. Le lendemain matin, lorsque Colette s'éveilla, elle songea immédiatement à la demande d'argent qu'elle allait être obligée de faire à son père. Immobile, elle n'avait pas mal, mais dès qu'elle remuait, elle sentait une lourdeur à la tête qui lui faisait appréhender de se lever. Que ferait-elle en cas de refus? Dans le demi-jour de ce matin d'hiver, sa chambre de jeune fille semblait une chambre inconnue. Il n'y avait plus aucun objet sur la coiffeuse ni sur la cheminée. Dans un coin, une malle avait été rangée, sur laquelle étaient entassés de gros paquets. La lampe électrique n'avait plus d'abat-jour. Une poussière invisible voilait les glaces. Colette ferma les yeux. Soudain, elle entendit parler à voix basse, puis marcher sur la pointe des pieds. On respectait son sommeil, on pensait qu'elle avait besoin de repos, et cette attention ne fit qu'accroître son malaise. Un temps qu'elle n'eût pu évaluer s'écoula. Comment allait-elle attendrir son père sur le sort d'un homme dont elle n'avait jamais parlé, dont M. Salmant ignorait même le nom? Où trouverait-elle le courage de demander cet argent dont Jacques et elle avaient besoin? Elle ouvrit les yeux. Il y avait 4 ans qu'elle n'avait pas couché dans cette chambre. Elle se souvint de la visite que son père lui avait faite la dernière nuit. Il avait frappé, il était entré sans attendre qu'elle l'y invitât. Il s'était alors trouvé dans une chambre combien différente de ce qu'elle était aujourd'hui. Il y avait eu des valises, du linge, des objets partout. Il y avait eu un abat-jour à la lampe. Il n'y avait pas eu de malle, ni de paquet dans un coin, ni cette chaise près de l'armoire, au dos cassé. « Tu es vraiment décidé à partir ?» Elle n'avait même pas répondu. « Où vas-tu ? » lui avait demandé son père. Elle se souvint de la lettre extraordinaire qu'elle avait reçue quelques jours auparavant. Elle pouvait la relire aujourd'hui, tellement tous les termes l'avaient frappée. « Ma chère Colette, je vous attendrai samedi soir à Lausanne, au train qui part le matin de Paris. Ne dites à personne où vous allez, ni que c'est moi que vous rejoignez. Je vous expliquerai pourquoi. Je vous embrasse. » « Est-ce que tu pars seule ?»« Je pars seule. » Elle se souvint encore du ton cassant avec lequel elle avait répondu. N'y avait-il pas eu déjà 2 mois qu'elle avait annoncé à son père que maintenant qu'elle avait 21 ans, elle voulait être indépendante et qu'en conséquence, elle irait faire seule un séjour d'un mois en Suisse ?« Quand reviendras-tu ? » ?»« Tu le sais très bien, je reviendrai dans 1 mois. » Et elle n'était pas revenue, et elle n'avait même pas écrit. Mais cela, c'était autre chose. Ce qu'elle se rappelait ce matin-là dans son lit, c'était la nuit qui avait précédé son départ. À 3 heures du matin, son père était encore revenu. Comme la première fois, il avait frappé à la porte, mais plus doucement. Colette s'était enfermée à clé. Elle n'avait pas répondu. Monsieur Salmant avait refrappé, avec son alliance cette fois. Elle se souvint qu'elle l'avait très bien entendu et qu'elle avait continué à garder le silence, comme elle faisait en ce moment. Car on frappait depuis un instant. Brusquement, elle sortit de son demi-sommeil. « Entrez » cria-t-elle, avec le sentiment qu'elle réparait une faute. C'était Marie qui lui apportait le petit déjeuner. Cette vieille domestique, quand Colette était partie, venait d'entrer au service de M. Salmant. C'était une réfugiée. Aujourd'hui, ce n'était plus une réfugiée. Colette se rappelait l'initiation, et à présent, cette domestique faisait partie de la maison, cependant qu'elle, Colette, était une étrangère. « J'ai apporté à mademoiselle du café au lait. J'ai pensé que c'était ce que mademoiselle préférait. » Colette se leva, ouvrit la fenêtre. L'appartement était situé rue d'Assas. Il donnait sur un côté du lycée Montaigne, celui où se trouvent les cuisines et l'économat. Une fumée grise montait de ces bâtiments dans l'air brumeux et humide. À gauche se dressaient des marronniers du Luxembourg, à travers lesquels, en cette saison, on apercevait les allées et en coin de la pépinière. Colette s'habilla à la hâte, rangea la chambre, refit le lit, habitude qu'elle avait prise à Genève pour que les femmes de chambre se plaignissent moins de ne jamais recevoir de pourboire. Quand elle prit son petit déjeuner, il était déjà froid. Elle ne s'en aperçut pas. Lorsqu'elle eut refait sa valise et qu'elle l'eut posée le long du mur, près de la porte, elle s'assit sur le lit. Pendant plusieurs minutes, elle resta ainsi, immobile, la tête basse, sans pensée. Enfin, elle se décida à aller retrouver son père. Vêtu d'une robe de chambre, il lisait le journal devant son petit déjeuner dans la salle à manger. Un grand désordre régnait dans la pièce. La desserte du dîner de la veille n'avait pas été portée à la cuisine. Elle embarrassait le buffet. Sur un fauteuil à roulettes se trouvaient des chemises que la blanchisseuse avait rapportées il y avait 3 jours. Un journal avait glissé sous la table et personne ne l'avait vu. Marie disait qu'elle ne pouvait pas tout faire et qu'il aurait fallu être 2. Quand elle avait préparé le petit déjeuner, fait la chambre de monsieur, le cabinet de consultation, le salon d'attente, il fallait déjà songer aux achats du déjeuner, si bien que le ménage du salon et de la salle à manger, qui arrivait en dernier dans l'ordre que la vieille femme s'était prescrit, était régulièrement sacrifié. « Bonjour, père !» dit Colette en entrant lentement dans la pièce, comme si elle y était déjà entrée un instant et que, ne sachant que faire, elle y retournait par désœuvrement. « Bonjour, Colette. As-tu bien dormi ?»« Et toi ?»« Très bien. » Il ne dormait plus que 3 à 4 heures par nuit. Il avait donc eu plus de temps qu'il en avait eu besoin pour se faire au retour de sa fille et pour fixer l'attitude qu'il adopterait vis-à-vis d'elle. Surtout, pas d'explication, avait-il pensé. Il lui était en effet apparu qu'elle ne changerait rien à la situation, que sa fille avait aujourd'hui près de 26 ans, et que, dans ces conditions, la seule attitude raisonnable était de la considérer comme la jeune femme indépendante qu'elle avait tant voulu être et qu'elle était après tout. Il serait donc respectueux de la personnalité de sa fille, de telle manière qu'elle comprit qu'elle devait en échange l'être de la sienne. Il laissait entendre, avec beaucoup de délicatesse, car il ne voulait pas que Colette s'imaginât qu'il lui gardait rancune, que les grands sentiments, lorsqu'ils ont été blessés, ont besoin de temps pour renaître, et qu'après un tel orage, on ne pouvait rien attendre d'un premier contact. Car après les quelques paroles qu'il avait échangées avec Colette, il ne doutait pas un instant qu'elle ne regrettât sa faute et qu'elle ne fût revenue pour toujours. « Si Marie a le temps aujourd'hui, dit-il, elle va travailler pour toi. Ta chambre servait un peu de cabinet de débarras. Il faudrait la faire à fond. Elle en a bien besoin, n'est-ce pas ?»« Oh, ce n'est pas indispensable !» Le docteur Salman posa son journal. Il détestait le café tiède. Il s'en versa pourtant une tasse, avec lenteur, avec précaution. Colette s'avança dans la pièce. Un instant, la pensée lui vint de se baisser pour ramasser le journal qui se trouvait sous la table. Mais elle n'en fit rien pour ne pas paraître chez elle. Elle appuya son front contre la vitre, regarda dans la rue. À ce moment, son père se leva. « Je vais m'habiller. Est-ce que tu m'attends ?» Colette se retourna. Elle n'avait plus le même visage. Un voile sur les yeux, quelque chose de pincé à une commissure des lèvres, une subite fatigue avait changé son expression. Colette venait de prendre la décision de parler. « Écoute-moi, dit-elle, il faut que tu saches tout de suite pourquoi je suis venue. Je dois repartir ce soir. Je ne veux pas que tu t'imagines que je vais rester. Nous n'avons plus d'argent. Lui, il est incapable d'en gagner. » C'est un garçon tellement étrange, tellement sensible. Et il est malade. Il faut que tu me donnes de l'argent. Quand je suis partie, il y a 4 ans, tu ne m'as rien donné. Tant que cela m'a été possible, je ne t'ai rien demandé. Aujourd'hui, je ne peux plus. Tu m'avais toujours dit que lorsque je me marierais, tu tiendrais à ce que je ne manque de rien. » Le docteur Salman s'était rassis. Il semblait attentif à ce que disait sa fille. Pourtant, dès qu'elle avait commencé de parler, il ne l'avait pas écoutée. Il songeait à lui-même. Il songeait que si elle était malheureuse, car il n'avait pas eu besoin de l'écouter pour comprendre ce qu'elle lui avait dit, il était bien plus, puisque les raisons qu'il avait de souffrir n'étaient pas de celles avec lesquelles on remue un interlocuteur. Il songeait que ses années à lui passeraient plus vite que celles de sa fille. Il songeait que la veille, avant qu'elle fût arrivée, ni Denise, ni personne ne se fût permis de troubler ainsi son existence. « Je ne peux pas te donner d'argent, » répondit-il. Colette le dévisagea avec dureté. « Pourquoi ?»« Parce que je n'en ai pas. » S'il était une réponse à laquelle elle ne s'attendait pas, c'était bien celle-ci. Elle demeura interdite. Le voile qui recouvrait son visage disparut. Les yeux, les lèvres n'avaient plus maintenant aucun défaut. « Je ne te demande pas beaucoup d'argent, je t'en demande un peu de quoi vivre en attendant qu'il trouve une situation. Tu viens de me dire qu'il était malade. Il ne l'est pas au point qu'il ne puisse rendre des services à ceux qui sauront utiliser son intelligence sans le brusquer. Ma pauvre enfant, est-ce que tu t'imagines qu'il existe des gens qui se donneront cette peine ?» La conversation s'égarait. Colette regarda de nouveau son père avec dureté. Son amour pour Jacques était tel qu'elle découvrait partout des obstacles. « Donne-moi de l'argent !»« Je ne peux pas t'en donner. »« Dis plutôt que tu ne veux pas !» Cette fois, M. Salmon perdit son sang-froid. N'était-il pas incroyable que sa fille, après ce qu'elle avait fait, osât insister ? Il ne prononça pourtant pas une parole. Comme s'il venait d'être gravement offensé, il se leva et quitta la pièce.